équipe de louanges. Hein, c'était super dans cette intimité ensemble avec le Seigneur qui nous prenait dans ses bras. Alors nous, on n'a pas pu se prendre dans les bras ce matin, mais le Seigneur, il a comblé ça, et il nous a pris chacun dans ses bras. Merci Seigneur. Et je pense que le thème que je voudrais vous partager ce matin, c'est aussi un thème qui va dans le sens de ce qui a été partagé par les paroles au milieu de nous et de la direction de la louange. Si je pose la question, si je vous pose la question, peut-on faire confiance à Dieu? Ouais, vous allez me dire oui, parce que vous êtes des bons chrétiens. Voilà. Et si je vous demande sur quoi vous basez-vous pour lui faire confiance, qu'est-ce que vous me répondez? Sa parole. Sa parole, ses promesses, eh oui, toutes ces choses-là. Et moi aussi, je parle. Moi aussi, je peux vous faire des promesses. Il est fidèle. Ah, voilà. Ça. Il est fidèle. Il est immuable. Il est immuable. Merci. Merci pour cette réponse, l'immuabilité, l'immutabilité de Dieu. C'est ce que je veux vous parler ce matin. Notre expérience humaine nous enseigne que tout change, n'est-ce pas? Les conditions météo changent, l'économie change, la politique change, notre univers change, les virus évoluent. Le changement est inscrit dans l'ordre de l'univers. Le temps est un grand facteur de changement. Les téléphones changent. L'iPhone 1, l'iPhone 2, l'iPhone 3, l'iPhone 4, l'iPhone 5, l'iPhone 6. Combien on en est? 11. Wow. 11. Tout change. Il est loin le temps où j'avais mon petit atout qui bipait. Hein? Aujourd'hui, c'est à toute heure, à tout moment. Même ce qui nous semble sans changement, l'univers par exemple, même l'univers change. Les scientifiques disent qu'il y a eu un commencement, il y a eu un Big Bang, quelque chose qui a commencé dans l'univers. Alors, ils ne donnent pas la raison. Nous, nous savons la raison pourquoi il y a eu un commencement. Parce que Dieu dit, et la chose est arrivée. Hein? Il aura une fin. L'évangéliste Jean voit l'univers qui est roulé. Il y a une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et nous-mêmes, nous sommes les premiers, je dirais même, à en pâtir de ce changement. Hein? Nous prenons de l'âge, nos forces déclinent, notre vue baisse, nous devenons sourds. Parlez un petit peu faiblement à Chantal, vous allez voir. Quoi, comment? Elle n'est pas là, je peux la charger. Non, non. Elle garde les enfants ce matin. Ne lui dites pas, elle va m'engueuler. Voilà. Ma belle maman change, hein. Alors là, elle a l'appareil. Voilà. Mais heureusement, tout cela est compensé par la sagesse, dit-on. Hein. Voilà. Les pensées, les avis changent. Plus jeune, je pensais de telle manière. Aujourd'hui, je pense d'une autre manière. Un exemple frappant dans le Nouveau Testament de changement de pensée, c'est à l'entrée de Jésus à Jérusalem, où la foule l'acclame. Hosanna, Hosanna, au fils de David. Et une semaine après, les mêmes gens qui peut-être étaient dans la foule criaient, crucifiez-le, crucifiez-le. Changement. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et on va regarder quelques versets. Psaume 102, verset 25. Tu as anciennement fondé la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains, ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, ils seront changés. Mais toi, tu es le même, Seigneur, et tes années ne finiront point. Un autre verset, Malachie 3, verset 6. Vous êtes bien assis, mais il y en a un qui était Malachie à l'époque. Non. Bon. C'est juste pour vous faire rire. Moi, l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachi a écrit à une période où le peuple d'Israël, de retour d'exil, avait reconstruit son temple, avait rebâti la maison de l'Éternel, mais avait quand même commencé à oublier qui il était. Et alors, le Seigneur le rappelle, je ne change pas. La suite de ce verset, c'est apportez vos dîmes, etc. Mais je laisserai Frédéric une autre fois en parler. Hein, voilà, vous m'avez oublié, vous avez oublié de me servir dans le temple, etc. Et donc, le Malachi dit ce qui ne change pas, c'est-à-dire l'Éternel. Vous, vous avez changé, pourtant vous n'avez pas été consumé, parce que moi, j'ai été fidèle à ma parole, j'ai été fidèle à mes promesses, je ne vous ai pas consumé, je ne change pas. Et un verset quand même dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout chez lequel il n'y a ni... j'ai dû oublier quelque chose en tapant. Donc, tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descend de d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ni d'ombre de changement. Alors le fait est que Dieu ne change pas, et les théologiens lui ont donné ce nom à cet attribut de Dieu, ils ont appelé ça l'immutabilité de Dieu. Alors c'est un thème que j'aime beaucoup, le fait que Dieu ne change pas, qu'il est un rocher. Ce matin, nous l'avons dit dans notre louange, il est le rocher des siècles, c'est-à-dire quelque chose qui ne bouge pas, c'est quelque chose de costaud, un rocher, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, il ne change pas dans son être intérieur, enfin, dans son être, dans son essence. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, vous connaissez le verset. C'est-à-dire, il est toujours lent à la colère. C'est comme ça qu'il se présente à Moïse. Lorsque Moïse lui demande, fais-moi voir ta gloire, Dieu se présente à lui. Voici comment je m'appelle Yahweh, c'est moi l'Éternel, je suis qui je suis. Je ne change pas, je suis toujours lent à la colère, je suis toujours riche en miséricorde, je suis toujours plein de compassion. Il était, il est, il sera, quelles que soient les circonstances extérieures à lui-même, toujours le Dieu de sainteté, toujours le Dieu de justice, toujours le Dieu d'amour. Hébreux 13, verset 8, parlant de Jésus-Christ, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hein ? Donc il ne change pas dans son être intérieur, il ne change pas dans ce qu'il est, il ne change pas dans ses desseins et dans ses plans. Le psaume 33, verset 11, dit ceci, « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, les projets de son cœur de génération en génération. » Les projets de son cœur, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Dieu n'a de cesse d'aboutir à ses fins, et à la fin, frères et sœurs, tout genou fléchira devant le Seigneur de gloire. Toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est son plan. Et lorsque vous lisez la première épître, non, il n'y a pas de première épître, l'épître aux Éphésiens, le premier chapitre, l'apôtre Paul nous décrit le plan que Dieu a prévu pour l'univers. Réunir toutes choses en son Fils. Et aussi un plan qui nous concerne, à vous et à moi. Un jour, nous serons semblables à Jésus-Christ, car c'est son dessein, c'est son plan pour nous. Il nous a mis sur le chemin, il nous a mis dans son train, nous avons pris le wagon, nous sommes montés dans le wagon, et nous savons que, eh bien, dans les rails, et en plus de ça, c'est lui qui tient les... Ça existe encore, ça ? C'est machin qui... Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Voilà, l'aiguillage. Voilà, c'est lui qui tient l'aiguillage. Le train va arriver à destination. Hein, le train va arriver là où il est censé être, n'est-ce pas? Il ne change pas non plus dans ses promesses, parce qu'il est fidèle, on l'a dit, et les psaumes le chantent sans cesse, la fidélité de Dieu. Hein. Ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées. Hein, le psaume 36. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il n'est pas comme moi. J'essaye d'être fidèle, n'est-ce pas? Mais lui, il est fidèle dans son essence, dans son être. Il est fidèle et il ne change pas dans ses sentiments. Dieu est une personne, parce qu'on le voit. Alors, est-ce que c'est un aspect anthropomorphique lorsque Dieu dit qu'il est le péché? qu'il a en horreur le péché et qu'il aime le pécheur. Lorsqu'il nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, il y a une part de sentiment. Dieu ne change pas dans ses sentiments. Il aura toujours en horreur le péché, il aimera toujours le pécheur. Même s'il pêche 7 fois, 77 fois, ce qui fait quand même énorme par jour, n'est-ce pas ? Dieu ne peut pas cesser d'être identique à lui-même. Florence disait ce matin, il est cohérent avec lui-même. Voilà, cohérent avec lui-même. Nous pouvons changer, nous pouvons devenir pire ou meilleur, mais lui ne change pas. Alors vous allez me dire, mais oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des passages dans la Bible où on voit que Dieu change d'avis ? Alors c'est vrai que la semaine dernière, je vous avais parlé d'une des facettes de Jésus, vous vous rappelez, dont nous n'avons pas trop l'habitude d'entendre, Jésus, le juge des vivants et des morts. Paul présente Jésus comme cela, il est le juge des vivants et des morts, et même il est le juste juge. Et je vous avais rappelé la semaine dernière l'épisode de Jonas, l'histoire de Jonas que tout le monde connaît. Jonas annonce le jugement de Dieu à Ninive, encore 40 jours et cette ville sera détruite. C'est la parole de Dieu, mais Ninive se repent, son roi se repent, la ville entière prend le sac et la cendre pour se repentir, et le Seigneur prend pitié de la ville de Ninive. Il en a compassion, ce qui entraîne la colère de Jonas, j'en avais parlé la semaine dernière. Est-ce que Dieu aurait changé d'avis ? Est-ce que Dieu aurait été incohérent avec ce qu'il avait dit ? Non, non. Parce que son caractère est toujours le même. Sa sainteté est la même. Sa justice est la même. Son amour est le même. Dieu ne change pas. Il reste, il demeure à jamais le même. Mais la ville de Ninive a changé. Le cœur des gens de Ninive a changé. Tout jugement, je vous le rappelle encore, porte une offre de salut. Tout appel à un jugement comporte la possibilité d'un salut. Alors je voudrais ouvrir une parenthèse et je voudrais vous faire part de quelques considérations concernant l'épidémie due au coronavirus. Hein ? Alors c'est pratiquement une pandémie, hein, c'est plus de 80 pays dans le monde quand même qui vit cette épidémie, une crise mondiale. Quel regard spirituel pouvons-nous y jeter ? Voilà, une épidémie, une des manifestations de la rupture de l'homme avec son Dieu. Certains, et déjà ça peut se voir sur les réseaux sociaux, pensent que l'épidémie de coronavirus est un jugement de Dieu sur notre société. On a vécu ça hein, à l'époque lorsqu'on parlait du sida, comme un jugement de Dieu. Voilà. Moi, j'y verrais plutôt, pour ma part, une manifestation de la rupture de l'homme avec son Dieu, comme le sont d'ailleurs toutes les maladies, n'est-ce pas ? Non pas le fruit spécifique d'un péché précis, mais une conséquence d'une situation globale de l'humanité, d'un état de rébellion généralisé, issu de notre rejet du Seigneur et de ses lois. Qu'est-ce que tu dis ? Du ras-le-bol. Nous sommes aussi concernés par cette épidémie parce que nous sommes solidaires avec cette humanité pécheresse. Nous sommes encore là, sur cette terre. Dieu aurait pu nous enlever, du moment que nous devenons chrétiens, il nous aurait pu nous enlever automatiquement, mais Dieu nous a laissés là pour une mission spéciale. Et franchement, je considère ce que nous vivons comme des opportunités, et non pas comme un motif de crainte et de repli sur soi-même, comme il nous a été dit ce matin encore. Nous voyons que les pouvoirs publics sont souvent dépassés par les événements. Peut-être on va passer au stade 3, on parle du stade 3, on ne sait pas ce que ça va devenir, le stade 3. Hein ? La science elle-même est dépassée, ils ne l'ont pas vu venir. Ils sont en train de construire, de chercher des vaccins, des médicaments, etc. Un petit peu sur le, un peu sur l'urgence. Voilà. C'est une opportunité, je dirais, pour l'humanité de réapprendre l'humilité. On ne gouverne pas tout. La science ne peut pas tout. Elle n'a pas toutes les solutions. Un petit truc de rien du tout qu'il faut voir au microscope électronique pour voir met l'humanité en chambranle. Même l'économie est touchée par quelque chose d'extrêmement minuscule et virulent. Une opportunité pour l'humanité d'apprendre l'humilité. Une opportunité pour nous, chrétiens, de prier pour le monde dans lequel nous sommes. Parce que nous sommes assez confortables. Et si nous commençons à être touchés par l'épidémie, c'est plutôt par crainte que ça nous arrive à nous. Mais si le Seigneur, par cela, nous disait un message, nous disait quelque chose. Émonder son peuple pour qu'on porte plus de fruits. Parce que c'est la raison de l'émondage, pour qu'on puisse porter beaucoup plus de fruits. Prier pour notre monde. Intercéder pour notre monde. Prier pour la France. Il veut nous déposer quelque chose encore, il nous a dit ce matin. Et si ce dépôt, ce n'était pas la reprise de la prière et de l'intercession pour notre monde, pour notre ville de Nîmes, c'est un des rôles de l'Assemblée, c'est une des rôles de l'Église. Prier pour le monde. Prier pour que notre France se repente, peut-être de son orgueil. La ville lumière a peut-être besoin de lumière. Deux Chroniques 6, 18 nous dit que si son peuple, sur qui est invoqué son nom, s'humilie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Peut-être est-ce le temps de prier et de relever ce défi de la prière et de l'intercession pour notre France. Une opportunité de manifester le royaume de Dieu. Nous le savons. Nous savons que la guérison, c'est un signe de la grâce de Dieu. Qu'elle survienne suite à l'intervention de la médecine ou de manière miraculeuse. Tout à l'heure, je voudrais qu'on prie pour les soignants. Il y en a un certain nombre parmi nous, des infirmiers, des sages-femmes, qui sont en première ligne par rapport à cette épidémie, des médecins. Et je voudrais qu'on puisse prendre le temps de prier pour eux. C'est important, parce qu'ils manifestent par leur profession et par leur vocation quelque chose du royaume de Dieu. Vous voyez ? Alors, j'aimerais lire quelque chose dans un livre que je viens d'acheter, et je me suis régalé à le lire. C'est donc un bouquin qui s'appelle « Témoins de la foi au premier siècle » de Alfred Kuen. Bon, il est décédé, Alfred Kuen, là, il y a 2 ans. Et il disait ceci. Et donc, il raconte un peu les caractéristiques de l'Église primitive, lorsque l'Église a commencé à se bâtir. Au milieu de la persécution, au milieu de l'invisibilité de la foi, dans l'Empire romain, païen, qui était contre eux, et voici ce que Alfred Kuen dit. L'Église prenait soin des orphelins, non seulement de ceux de ses membres, mais aussi des enfants exposés parce que non désirés par leurs parents. Une pratique fréquente dans le monde gréco-romain, surtout lorsque l'enfant était une fille. La tradition de s'occuper des malades remontait au premier temps de l'Église. Pendant des épidémies, alors que les païens fuyaient souvent même les leurs par peur de la contagion, les chrétiens s'occupaient des malades, quitte à être contaminés eux-mêmes. L'impression qu'ils faisaient sur les païens par ce comportement explique en partie la croissance de leur nombre durant les temps d'épreuve. L'Église primitive a des choses à nous apprendre. Prions pour les soignants. Prions pour notre implication dans notre société face à cette épidémie. Une opportunité pour la foi de devenir contagieux. J'ai voulu être un petit peu, rentre dedans, voilà. Ça ne me fait pas plaisir, moi, d'entendre qu'une église évangélique a été le berceau d'un rayonnement contagieux. Ça ne me fait pas plaisir, ça ne nous a pas fait plaisir. Je voudrais qu'on soit, que les médias nous parlent de notre contagion de la foi. Hein, de la contagion de la foi. Alfred Kuhn encore parle d'une lettre que Pline le Jeune, peut-être je ne vous en avais déjà parlé, je ne me rappelle plus, mais peut-être dans un cercle biblique. Pline le Jeune est gouverneur dans une région d'Asie mineure et il envoie une lettre à Trajan, l'empereur. Il ne sait pas quoi faire des chrétiens parce qu'ils sont un nombre imposant, la foi grandit, etc. Donc il ne sait pas trop. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des familles entières qui confessent la foi. Et à l'époque, il suffisait de dire Jésus-Christ est Seigneur et vous allez au martyr. Voilà. Et donc Pline le Jeune lui demande qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. Et voici ce qu'il dit. Elle gagne non seulement les villes, je vous dirai quoi, hein, elle gagne non seulement les villes, mais aussi les bourgades et les campagnes. Sans doute n'est-il pas impossible d'enrayer l'épidémie et de guérir le mal. De quoi il parle? De la foi. Sans doute n'est-il pas impossible d'enrayer l'épidémie et de guérir le mal. La foi considérée comme une contagion. Voilà. Comment ? Voilà. Notre témoignage. Alors, c'est vrai que identitairement, on a tendance à se replier sur soi, hein, face à peut-être à l'agression que le monde a sur nous. Mais le Seigneur nous dit, n'ayez pas crainte. Moi, j'ai vaincu le monde. Un des 365 fois où c'est marqué, ne crains pas. Hein, ne crains pas, petit troupeau. Moi, j'ai vaincu le monde. Donc, une opportunité pour la foi de devenir contagieux. Mais vous savez, je me mets aussi, je suis prédicateur, mais je me prêche aussi, n'est-ce pas? Je suis assis avec vous à écouter ce qui se dit. Hein, je ne suis pas au-dessus de la mêlée. J'ai besoin aussi d'entendre dire ces choses-là. Hein, voilà, d'être fier de ma foi, d'être fier de mon implication, d'être fier de mon comportement. Voilà. Et c'est un défi que le Seigneur veut nous lancer à chacun d'entre nous. Je referme la parenthèse, voilà. Donc, lorsque nous prions, écoutez, je pense qu'on va le faire maintenant. D'abord, je vais demander à France, elle va lire un psaume. Elle a demandé qu'on lise le psaume. Après, je continuerai mon message si je vois que j'ai du temps. Et puis, nous allons prier pour notre monde. Nous allons le faire, voilà, on va le faire. D'abord, le Seigneur veut nous garder, veut nous protéger. Le Seigneur nous a dit, il est notre bouclier, il est notre bras autour, il est son bras autour de nous, il met son bras autour de nous.
Vous savez, on est tous des sacrificateurs. Et on peut tous apporter maintenant devant le trône de Dieu ce qu'on a sur notre cœur, notre famille, notre région, notre pays. Et cette semaine, c'était mardi, c'était la semaine de prière mondiale. Ça tombe comme ça tous les ans. Et bien sûr, cette année, ça a été un peu concentré sur ce virus qui envahit le monde. Et pendant cette journée, dans toutes les langues, à travers le monde, sur 24 heures, ce psaume 91 que vous connaissez tous, a été proclamé sur nos familles, sur nous, sur notre région. Nous, on est responsables de la région d'ici, de Nîmes, des Cévennes, parce que Dieu nous a placés là. C'est à nous de prier pour cette région, pour notre pays aussi, pour l'Europe. Ça va plus loin après. Mais déjà, si on se contente de ça. Et on va le lire ensemble, pour ceux qui ont leur Bible. Prenez le psaume 91. Quand on lit la parole, on peut aussi la prier. Et prier la Bible, c'est quelque chose d'important qu'on doit apprendre à faire. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, demeure à l'ombre de Tout-Puissant. C'est chacun de nous, ça. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Et là, vous pouvez ajouter, c'est lui qui délivre ma famille, c'est lui qui délivre mon pays, c'est lui qui délivre ma région, c'est lui qui délivre mon voisin. C'est comme ça qu'on prie la Bible, pas juste de la lire. C'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste. Alors on peut mettre le nom de notre virus à la place, hein, et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu te réfugieras sous ses ailes. Vous voyez Dieu qui est comme un père, mais il est aussi comme quelqu'un qui nous prend chacun. La tendresse de Dieu. Sa vérité ou sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier et une cuirasse pour chacun de vous, pour vos familles, pour votre région, pour votre pays. Proclamez-le ensemble. Il est un bouclier et une cuirasse. C'est sa vérité qui est ça. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste, ce virus, qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Dites-le sur vos familles, dites-le sur vos voisins, dites-le sur votre pays, dites-le quand vous priez. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta résidence. Est-ce que vous faites du Très-Haut votre résidence? Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison. Alors là, c'est important. On est dans une autre dimension après. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes ses voies. Il donnera pour toi, pour chacun de vous, pour vos familles, pour notre pays, pour la France, il donnera des anges. C'est incroyable, on ne se représente pas ce que ça veut dire, mais c'est la Bible, et la Bible est la vérité, donc je peux le proclamer. Il donnera des anges. Il donnera des ordres à ces anges. Ce n'est pas simplement des anges qui vont se balader, mais c'est des anges qui ont reçu des ordres pour nous garder dans toutes nos voies. Puis en plus, ils nous porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. C'est l'autorité que Jésus nous donne, ça. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai, puisqu'il m'aime, on peut dire, je le ferai échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Nous connaissons son nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Il envoie ses anges et il est lui-même avec nous dans la détresse. Je le délivrerai et encore plus, je le glorifierai. Je te rassasirai de longs jours et je te ferai contempler mon salut. Amen.
Merci France. Alors je vous propose simplement de vous tenir debout les uns les autres. Et Elisabeth, tu pourras prier pour les autorités, qu'elles soient politiques, sociales. Gérard, tu pourras prier pour notre témoignage. Loïc, tu pourras prier pour les soignants.
Est-ce qu'on peut prier
D'accord. Pour les malades qui sont déjà malades. Frédéric, tu pourras prier pour les personnes malades. Amen. Voilà, ensemble, on va élever la voix pour notre France. Amen.
Seigneur, nous te louons et nous te bénissons parce que c'est toi qui as choisi, qui a permis les gens qui nous dirigent. Et surtout en ce moment, Seigneur, nous te remercions, nous te demandons de leur donner ta sagesse, ton discernement, Seigneur, que nous refusons au nom de Jésus-Christ la peur. Nous refusons aussi au nom de Jésus-Christ le regard des autres, ces questions politiques, Seigneur, que ces gens arrivent au point où ils comprennent que cette situation leur dépasse et qu'ils crient à toi. Nous savons, Seigneur, du président Macron partout, ils ne sont pas seuls. Tu es toujours là. Tu es là pour qu'ils puissent t'appeler. Que nous prions pour cette humilité dans leur cœur et dans leurs âmes et leurs esprits, qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas, mais que tu sois présente. Nous savons, Seigneur, je crois de fond de mon cœur que tu répondes, tu exauces la prière de tout cœur qui crie à toi. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur. Nous proclamons ta souveraineté dans cette situation et que ta volonté soit faite pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus.
Amen.
Nous te prions pour notre témoignage, Seigneur. Donne-nous beaucoup d'amour, Seigneur, et de compassion pour ceux qui sont dans l'angoisse et qui souffrent, Seigneur. Nous sommes solidaires de ce monde qui souffre et nous voulons témoigner l'amour, Seigneur. Témoigner ton amour. Témoigner ta rencontre, Seigneur. Et tu veux nous donner des occasions où nous pourrons manifester l'amour, où nous pourrons manifester la compréhension et en même temps le témoignage d'un amour, Seigneur, qui dépasse les situations et qui tranquillise, qui donne la paix. Donne-nous ces opportunités, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, autour de nous, avec nos collègues de travail et dans le monde entier, Seigneur. Bénis le témoignage des chrétiens. Amen.
Seigneur, nous voulons te prier aussi pour toutes les personnes qui prennent soin des autres sur le plan médical. Je ne connais pas toutes les professions pour lesquelles il faut prier, Seigneur, les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, les ambulanciers, je ne sais pas qui d'autre, mais toutes ces personnes-là qui sont au service de notre santé, de notre bien-être. Te demandons de les protéger, qu'ils puissent garder une bonne santé pour pouvoir continuer leur mission de apporter des soins aux autres. Te prions particulièrement pour ceux de notre assemblée, mais aussi pour ceux de toute la France, de toute l'Europe, du monde entier. Et puis Seigneur, nous te prions aussi pour que tu donnes la sagesse, l'intelligence, pour qu'il puisse y avoir un vaccin, un médicament, ou je ne sais pas quoi, qui soit trouvé. Seigneur, nous savons que souvent tu as donné ton peuple, des médecins, des infirmiers, des gens qui ont, des chercheurs qui ont trouvé, je pense à la pénicilline ou à toutes les inventions qui ont été données par des croyants. Te prions qu'il y ait quelque chose qui puisse être trouvé, Seigneur. Te demandons aussi de bénir au travers de ça ceux qui se posent des questions, comme disait Ambroise Paré, les hommes soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Et te prions pour que dans tous ces milieux médicaux, paramédicaux, tu puisses redonner des interrogations. Mais qui sait qui a la puissance de guérir? Et qu'il y ait au travers de ça beaucoup de personnes qui se tournent vers toi. Amen.
Amen.
Seigneur, je veux t'apporter tous nos malades. Seigneur, tu viens donner ta paix, tu viens les entourer, Seigneur Jésus. Te demandons une protection particulière autour d'eux. Je pensais aussi à toutes les personnes qui sont immunodépendantes, Seigneur. Tu viens mettre une barrière autour d'eux, Seigneur Jésus, que rien ne les atteigne. Vraiment, Seigneur, tu viens donner ta paix à toutes ces personnes qui n'ont pas pu venir ce matin. Nous voulons les associer à ce culte, Seigneur Jésus. à cette présence qui nous a fait du bien, ta présence qui nous a fait du bien. Tu viens les bénir là où ils sont, Seigneur. Tu viens les encourager, Seigneur. Et merci parce que tu poses ta main sur chacun, chaque personne qui sont malades et tu viens les guérir maintenant par ton nom puissant, Seigneur. Amen.
Amen, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous voulons être fiers, Seigneur, de qui nous sommes, Seigneur. Fiers, Seigneur, de ce que tu nous as sauvés, non pas dans une fierté dans l'homme, mais dans une fierté de toi. Toi qui ne changes pas, toi qui ne bouges pas, qui est le rocher des siècles sur lequel nous sommes fondés, Seigneur. Seigneur, merci pour cette opportunité, Seigneur, que nous vivons, Seigneur Jésus, de mettre en pratique, Seigneur, oui, vraiment de manière pratique, Seigneur, la solidarité aussi, la communion entre nous, Seigneur, de prendre soin les uns des autres, Seigneur, comme tu nous l'as enseigné, de prier les uns pour les autres, comme tu nous l'as enseigné, Seigneur. Merci, parce que tu es en train de faire ce changement dans nos cœurs, Seigneur, de voir, Seigneur, notre place en tant que chrétien, en tant qu'être humain, sauvé par grâce au sein de cette génération et en France. Seigneur, nous voulons te dire encore au milieu de nous, à toi, soit toute la gloire, manifeste ta gloire et ta bonté au milieu de nous. Amen. 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 Je vais m'arrêter là. Juste pour vous dire quand même, si Dieu ne change pas, il est quand même en mouvement et il marche avec nous. Et il marche avec nous. Que le Seigneur vous bénisse.